c'est la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que très rapidement, vous allez complètement oublier ce que j'ai raconté. C'est plutôt encourageant pour moi. Mais sachez que demain, si vous sortez de là comme ça, vous n'allez plus vous en rappeler. Triste. Pourquoi ? Comment faire ? Comment faire pour qu'on se souvienne de ce qui a été raconté, de ce qui a été dit ? La première chose, c'est répéter. C'est pour ça que des fois, on répète les mêmes enseignements, les mêmes prédications, ou le même thème qui revient. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'être de bonne disposition. Être nous-mêmes réceptifs, être heureux quand nous allons quelque part, que ce soit ici ou même ailleurs, si vous voulez recevoir un enseignement ou une parole. Et autre idée, c'est de prendre des temps pour s'approprier ce qui a été dit. Prendre un temps pour expérimenter ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? À la fin de la prédication, on se mettra par trois, avec les gens qui sont à côté de vous, pour discuter de ce que vous avez retenu. Ce que vous avez retenu ne sera pas forcément mon point principal, c'est pas grave, mais en tout cas, discutez de ce que vous avez retenu, ce que vous gardez de cette prédication. Très court, ça fera 5 minutes au total, et vous prendrez 2 minutes pour prier ensemble. Donc ce sera un exercice simple, rapide, et avec les gens à côté de vous, parce qu'on n'a pas envie de déménager l'église tout de suite. Si vous ne vous sentiez pas à l'aise pour discuter, bah les autres le feront à votre place. Il y a des gens, ne vous inquiétez pas, qui aiment beaucoup parler et qui se sentiront à l'aise pour parler un peu plus. Tous pourris, même moi. C'est ce que dit le prophète Amos au peuple d'Israël. Amos, c'était un berger, il avait un troupeau, une personne assez riche, en tout cas, on suppose qu'il avait de l'argent. Il vit, le livre est écrit entre 792 et 753 avant Jésus-Christ. Donc on est bien loin quand même. Donc on est après la séparation des deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Amos, il vit dans le royaume du Sud et il prophétise pour le royaume du Nord, il prophétise pour l'autre royaume. Il habite pas très loin. Il habite à 10 km de Jérusalem. Il habite à Tekoa. Je ne sais pas si vous avez été dans le groupe de maison cette semaine. Vous avez écouté parler des Tekoïtes ou des gens qui habitaient à Tekoa. Eh bien, lui aussi, il habitait de là-bas. Il était de là-bas. Bien qu'Israël, bien que Amos est de Juda, il peut parler quand même pour Israël. Ça reste le peuple de Dieu. Et ils restent ensemble, même si par moments, ils se font un peu la guerre. Je vous propose de lire, de survoler le chapitre 1 et 2. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai raccourci des passages pour les transformer. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël et au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos dit, de Sion, l'Éternel rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers se flétriront, le sommet du Carmel desséchera. L'Éternel dit ceci, Damas a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont écrasé sous des herses de fer les gens de Galaad. Je mettrai donc le feu au palais d'Azaël, et il consumera les palais du roi Ben-Hadad. Oui, je ferai sauter le verrou de Damas, je ferai disparaître celui qui siège sur le trône dans la vallée d'Aven, et celui qui est au pouvoir à Ben-Eden. Et les Syriens partiront en exil, à Kir, l'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci, Gaza a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont déporté des prisonniers en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. Je mettrai donc le feu au rempart de Gaza, et il consumera les palais qui s'y trouvent. Je ferai disparaître celui qui est dans Asdod et assis sur le trône, et celui qui est au pouvoir à Ascalon. Je me tournerai contre Écron, et ainsi périront les derniers Philistins. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel dit ceci. Tyr a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont livré à Édom des déportés en masse. Ils n'ont fait aucun cas du traité de fraternité qui les lie au peuple frère. Je mettrai donc le feu aux murailles de Tyr et il consumera les palais qui s'y trouvent. L'Éternel dit ceci. Édom a perpétré de nombreux crimes et il a dépassé les limites. Trois petits points. L'Éternel dit ceci. Les Ammonites ont perpétré de nombreux crimes et ils ont dépassé les limites. Trois petits points. L'Éternel dit ceci. Moab a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. L'Éternel dit ceci. Juda a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. L'Éternel dit ceci. Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un peu de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour un morceau de pain. Ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière. Ils faussent le droit des humbles. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage. Et dans les temples de leur dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Pourtant, moi j'ai détruit devant eux les Amoréens, qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes, et j'ai détruit leurs fruits et tranché leurs racines. Pourtant, moi je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vous. N'en est-il pas ainsi, Israélite ? L'Éternel le déclare. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin et aux prophètes, vous avez ordonné, ne profitez-en pas. Je vais vous écraser sur place comme écrase un chariot chargé de gerbes. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge et les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces. Le plus vaillant des guerriers ne pourra sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur des cavaliers, ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, le plus vaillant des braves fuira tout nu. L'Éternel le déclare. Amos, chapitre 1 et 2. Dur, un peu comme passage, quand on l'écoute. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture. Il y a des choses qui reviennent. C'est pour ça que j'ai séparé les choses. On a toujours le même refrain. L'Éternel dit ceci. Machin a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car, trois petits points. Et Dieu fait une liste de reproches. Par exemple, à Édom, ils ont poursuivi leur peuple frère avec l'épée. En étouffant toute pitié, il n'a pas cessé de le meurtrir avec colère et de nourrir sans fin sa haine invétérée. Ammonites, parce qu'ils ont ouvert le ventre des femmes qui étaient enceintes en Galade, en recherchant à agrandir leur territoire, par exemple. Et ils continuent avec les Moabites, avec Juda, puis Israël. Si vous étiez israélite, comment recevrez-vous cette prophétie? Comment recevrez-vous la parole d'Amos? Je suppose que dans un premier temps, on serait heureux. On serait heureux parce que le jugement s'applique aux infidèles, aux barbares, aux nazis-ennemis, aux gens qui sont ennemis de Dieu, qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu et qui nous font souvent la guerre, qui veulent prendre notre territoire, qui veulent nous écraser, on serait peut-être heureux. Mais plus on avance, plus ça sent mauvais. On a les textes qui se referment de plus en plus autour d'Israël. Je vous remets la carte. Vous n'avez pas fait attention, mais c'est normal. On commence par trois peuples qui sont des peuples voisins et des peuples parfois ennemis. Les trois premiers. Les trois suivants, qui est cité dans Amos 1 et 2, sont des peuples qui ont un lien de parenté avec le peuple de Dieu. Et les deux derniers, c'est les peuples frères, Israël et Juda. Et donc, au départ, tout va bien, c'est les autres, et plus on avance, plus ça se rapproche sur eux. À mon avis, ça commençait bien pour eux, quand ils ont entendu ça, et à la fin, ils disent « mince, qu'est-ce qu'on a encore fait ?» Et moi, en tant qu'Israélite, bien entendu, je dirais « moi, je suis le peuple de Dieu, j'ai pour père Abraham, je suis circoncis le huitième jour, et je suis mis au même rang que les païens. Je suis mis au même rang que les ammonites, qui ont égorgé, qui ont tranché le ventre des femmes. » Amos est en train de me dire que je mérite autant le jugement que les autres. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À partir du verset 6, ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils harcèlent jusque la poussière de la terre qui est sur la tête des petites gens. Ils font dévier les pauvres du chemin. Le chemin des pauvres, pardon. Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage, donc pris en gage aux pauvres. Hein. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin qu'ils ont condamné à l'amende. Dieu leur reproche qu'ils sont prêts à tout pour s'enrichir, qu'ils sont prêts à tout pour écraser les pauvres. Ils sont prêts à tout pour exploiter les innocents. Et en tant qu'Israélite, j'aurais tendance à me dire, t'es qui toi pour me parler ? Ça, si c'était Amos, un pauvre garçon qui sort de sa campagne, on se dit, oui, mais lui, il est pauvre, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est simple. Et Amos, comme je disais, est a priori une personne aisée, une personne qui est de la même condition sociale que eux. Et donc, il est plus légitime pour parler de ça. Un deuxième point, pourquoi Amos est légitime, ça c'est au chapitre 3, c'est que, où on peut le voir, c'est que Amos n'est pas un prophète professionnel. C'est pas un ministre du culte. Il vit pas du temple. Le gars, il a assez d'argent, hein, il élève très bien ses animaux, il fait ses sycomores. Il a pas besoin de ça pour vivre, hein, ou bien au contraire. Hein. Prophétiser, à mon avis, ça lui provoquait plus de soucis que de bienfaits. Hein. Donc, quand Amos dit ça, ça porte un poids plus important. Dieu met Israël sur le même rang que les Ammonites. Ils sont tous coupables devant Dieu. Aucune différence. On voit que Dieu est affecté par cette situation. Dieu est affecté de voir son peuple qui s'est éloigné de lui. Il a tout fait pour les protéger et les garder. Pourtant, moi, j'ai détruit devant vous les Amoréens. Pourtant, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils et vos fils pour être prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vous. N'en est-il pas ainsi, Israélites ? Et Dieu ne peut plus laisser les choses se faire. Ils ont dépassé les limites, comme il les répétait. Et là, il essaye quand même, hein, une dernière fois de les interpeller, de les interroger. N'en est-il pas ainsi ? Revenez à la raison. Dieu leur décrit le jugement, comment il sera fait pour eux. Et on a vu, j'ai insisté, j'étais un peu lourd exprès sur le jugement aussi de Dieu. Ça paraît quelque chose de dur, d'assez de redoutable. A priori, on n'aimerait pas y être. Même le meilleur des guerriers ne pourra pas échapper à l'Éternel. Et le vaillant fera nu, sans rien, dépossédé de tout. Et c'est pas que ça. Il y a pire encore. Leur territoire ne sera pas brûlé. Il ira dans les mains des infidèles, des autres nations. C'est pas comme si Dieu leur retirait leur business. Il leur retire pour le donner à leurs concurrents. C'est une image. En tout cas, il le retire et leur dit, votre territoire sera habité par d'autres. Et au chapitre 3, encore un autre point qui aggrave, c'est que Dieu, quand il fait ses déclarations au peuple, il prend des témoins. Et les témoins qu'il prend, ce sont ces nations infidèles. C'est l'Égypte, c'est Ashdod, ou Asdod, selon les traductions. Dur pour un Israélite. Dur. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et il rendra justice à tout le monde. On n'a pas l'impression. Les autres nations seront jugées parce qu'ils ont été injustes envers d'autres. Et Dieu va rendre justice à ces autres nations aux qui on a été injustes. Dieu va rendre justice à des injustes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein. Donc, les peuples, au départ, ont fait des trucs pas terribles. Dieu va les juger parce qu'ils ont, été injustes envers d'autres peuples. Mais donc, il va rendre la justice au peuple qui était méprisé. Mais ces peuples-là, à leur tour aussi, ont été injustes à un moment donné. Et Dieu va aussi les rendre justice. Et Dieu va rendre justice à tout le monde. Il ne va pas dire, vous avez fait juste n'importe quoi. Non, non. Il va rendre justice à tout le monde. Dieu n'a pas oublié même les peuples à qui il ne s'est pas révélé tout de suite qu'il a choisi un autre peuple en premier. Dieu va quand même leur rendre justice. Dieu ne va pas les oublier. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui se fiche de nous. Un Dieu lointain. Un Dieu qui est extérieur à sa création. On voit dans ce texte un Dieu qui est présent, même pour les peuples qui n'ont pas conscience de lui. Dieu aime sa création. Dieu veut que sa création soit bonne, soit gérée convenablement. Dieu est là, partout, même qu'on le veuille ou non, il est là. Dieu est juste. Et quand il parle aux gens, quand il parle à ses peuples, il ne les prend pas en traître. André nous a rappelé qu'il était même lent à la colère. Dieu a usé de patience avant de dire stop. Mais là, ils ont dépassé les limites. Dieu ne cherche pas à s'amuser avec le feu. Non, il veut simplement, des fois, cesser l'injustice. Et Dieu, au chapitre 3, je brasse un peu aussi le chapitre 3, il dira, deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est pas du tout convenable. Si je marche avec quelqu'un, c'est qu'on a discuté, on a prévu de marcher ensemble. Dieu se compare à ça. Le lion rugit-il dans les broussailles sans avoir une proie? Si le lion, il a rien à faire, il va pas commencer à grogner. Le jeune lion pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Non. Inconcevable. Le filet s'élève-t-il du sol sans qu'il n'y ait rien de pris? Non. L'oiseau va-t-il se jeter dans un filet s'il n'a pas vu une proie? Non. Est-ce que ainsi, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple tremble? Non. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Non. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu fait connaître, Dieu avertit ce qui va se passer. Dieu propose son amour à tous. Dieu n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans. Il l'a fait par de nombreux prophètes. Le but de Dieu n'est pas d'être sadique. Le but de Dieu, c'est de nous réconcilier avec lui. De réconcilier la création avec lui-même. Que faire alors de l'élection du peuple d'Israël? S'il n'est pas meilleur, qu'en penser? Je le dis des fois en rigolant à Hélène, l'ignorance est la clé du bonheur. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette expression. Hein. Et j'ai tendance à dire que c'est pas tout à fait faux quand c'est des choses qui sont pénibles. Des fois, ça nous permet de pas trop se présenter dedans, devant. Mais là, c'est pas ça. Il est question de connaître Dieu, de connaître le Créateur, celui qui n'a pas d'égal, celui qui est supérieur à tout le monde. C'est plutôt une chance de le connaître, c'est plutôt une chance de le côtoyer. Il faudrait traduire plutôt l'expression « plus tu en sais, mieux tu te portes ». Ça devrait être ça avec Dieu. Plus nous connaissons Dieu, et mieux nous portons. Parce que c'est une chance extraordinaire de pouvoir le connaître, d'être connu par l'Éternel, celui qui n'a pas de fin. Jésus le dira, il connaît les gens. Zachée va dire, hâte-toi de descendre, il faut que j'aille chez toi. Alors que Zachée, pardon, ne le connaissait pas, on dit ça dans les évangiles. Encore Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Dieu connaît, Dieu nous connaît. Et c'est une chance, à notre tour, de pouvoir le connaître, lui le Créateur. Mais qu'en faisons-nous? Que faisons-nous de ce privilège? Le plus grand privilège entraîne la plus grande responsabilité. Détourné dans des films, mais aussi redit dans la Bible du semeur. Par exemple, pour moi, dans l'apôtre Jacques, il parle des prédicateurs. Il dirait que c'est un privilège de prêcher. Mais quand même, ne vous pressez pas trop. Que vous serez jugé plus sévèrement. Parce que vous connaissez ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Donc si vous faites des bêtises, vous serez jugé en conséquence. Ma responsabilité, en tant que prédicateur, c'est d'amener, de nous amener à connaître Dieu et à grandir avec lui. Maintenant, connaissant ça, si je ne le fais pas, Dieu me demandera des comptes. Le plus grand privilège entraîne la plus grande responsabilité. Quelle est notre responsabilité en tant que chrétien? Pour Israël, on a vu que c'était l'injustice. Mais pour vous, pour nous, quelle est votre responsabilité? Amos nous montre qu'ils sont tous pourris, même eux, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux. Et l'Ancien Testament nous montre que Dieu essaie de leur montrer qu'ils ont besoin de lui. Montre à quel point l'homme ne peut pas avancer sans le Christ. Et que même notre conscience nous accuse quand nous faisons le mal. Et que même si on n'a pas la connaissance du Christ, notre conscience nous montre ce qui est bien ou mal, cette conscience qui est donnée par Dieu. Que faire? C'est le Christ, par sa mort, qui vient prendre ce jugement, qui vient prendre notre condamnation pour que nous puissions vivre une vie réconciliée avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il va encore plus loin. À la résurrection du Christ, une fois que le Christ est monté, il nous a promis son esprit qui viendra habiter parmi nous. Son esprit qui va nous aider à nous synchroniser avec Dieu, qui va nous aider à avancer dans les pas de notre Seigneur. Cet esprit qui va nous transformer, qui va renouveler notre pensée, nos intelligences, qui va nous aider à avancer avec lui. Du coup, que faire? Simplement s'en remettre à Dieu. S'en remettre à Dieu parce que nous avons besoin de Christ et on ne peut pas faire autrement. Notre péché est là. Que faire? Ne pas culpabiliser. On ne peut pas avoir une culpabilité qui nous renferme sur nous-mêmes, mais une culpabilité qui va nous pousser à nous en remettre au Christ. Même si on ne se sent pas coupable, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons quand même besoin du Christ. Que faire? Travailler avec Dieu sur qui nous sommes. Travailler en partenariat, lui remettre nos vies pour qu'il nous transforme. Vous pensez peut-être que Dieu se moque de vos vies? De ce que vous vivez au quotidien? Non. Que vous soyez chrétien ou non, Dieu vous connaît. Il connaît même le nombre de cheveux sur vos têtes. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais Dieu connaît même ça. Il vous connaît tous et rendra justice pour qui de ce que vous avez subi et de ce que vous pouvez faire subir aussi aux autres. Nous pouvons lui faire confiance que rien ne lui échappe, même si on le souhaiterait par moment. Rien ne lui échappe, même si vous pensez que le jugement, des fois, n'arrive pas assez vite et vous vivez dans une injustice. Dieu en a conscience et Dieu vous connaît.